On parle de rumeurs ce matin dans le bistrot de la vie avec bien sûr le standard qui est ouvert, 08 92 68 80 30. Et deux invités, hein, Véronique Campion-Vincent, pour ce livre de sources sûres, nouvelles rumeurs d'aujourd'hui. C'est paru chez Payot. Et La rumeur, histoire et fantasme par Pascal Froissart chez les éditions Belin. Alors, je voudrais qu'on explique bien le mécanisme d'une rumeur. Comment elle naît, cette rumeur? Alors, l'un comme l'autre, hein, vous êtes tout à fait complémentaires. Alors, comment c'est, Véronique?
Comment ça naît?
Oui, comment naît une rumeur? Il y a bien un moment où il y a un départ.
Oui, mais c'est un moment que le chercheur ne veut pas connaître. Parce qu'il ne connaît, dans la pratique, une rumeur qu'au moment où elle est lancée.
Mais il y a bien, c'est au départ, une personne, entre guillemets, on
peut-être,
va dire,
mais elle est destinée à demeurer hypothétique. Ou même si elle dit « c'est moi qui l'ai lancée », ça ne veut pas dire que c'est vrai. Les phénomènes de communication sont des phénomènes où les gens mentent beaucoup sur ce qu'ils font. Peut-être pas toujours consciemment, d'ailleurs.
Bon. On va prendre un exemple très concret à chaque fois.
Voilà.
Un exemple qu'on trouve dans votre livre, que beaucoup de gens qui ont la génération de entre 40 et 55 ans connaissent parfaitement. Dans les années 60, à la fin des années 60, dans une ville de province de notre beau pays, on a dit des choses sur les femmes qui allaient dans les cabines d'essayage. Alors, expliquez-nous un peu comment est née cette rumeur. Alors, pour le grand public. Hein.
S'il s'agit de l'incarnation la plus connue,
qui est
donc en 1969, la rumeur d'Orléans, elle est, on peut dire que sa survenue a coïncidé dans la ville d'Orléans avec plusieurs phénomènes. Premier phénomène, ouverture de boutiques qui s'appelaient les oubliettes avec des sous-sols peut-être relativement inquiétants, c'était pour faire venir le chaland. Deuxième phénomène, la parution à peu près concomitante dans Noir et Blanc, du témoignage d'un nommé Stephen Barley, qui s'appelait L'esclavage sexuel, qui allait être traduit et publié par Albin Michel, je crois bien, en France, et qui donnait une histoire tirée par les cheveux de femmes enlevées dans un salon de coiffure à Grenoble. Maintenant, on n'a pas trouvé la personne qui a lu ça et qui s'est mis à dire « ça arrive aux oubliettes ».
Oui, mais enfin, attendez, des années après, tout le monde se souvient de cette histoire, il y a encore des doutes, on dit, les femmes allaient essayer un vêtement, hop, elles étaient kidnappées, c'était la traite des blanches, c'est parti très très loin.
Il y a eu d'autres épisodes ensuite, mais on peut quand même considérer, c'est d'ailleurs, je pense, moi, ce qui fait l'intérêt de cette affaire, c'est que c'était le dernier grand épisode où les femmes disparaissaient à cause de traite des blanches. Alors maintenant, il y a toujours des femmes et des enfants dont on dit qu'ils disparaissent, en tout cas dont on l'a redit, à la fin des années 80 et au début des années 90, mais c'était plus souvent dans des parcs d'attractions. Il y a eu aussi des grands magasins qui ont été visés. Et quand c'était centré en particulier sur les enfants, mais aussi les femmes, c'était non pas pour disparaître dans des réseaux de prostitution au loin, mais pour réapparaître avec un rein en moins. Et moi, mon hypothèse, c'est que le vol d'organes a remplacé la prostitution forcée comme motif de ces disparitions qui circulent toujours autour de lieux inquiétants. Mais pourquoi c'est inquiétant? Si vous avez été un parent, que vous avez emmené des enfants dans un parc d'attractions, vous savez que c'est un cauchemar, vous les perdez tout le temps. Donc vous êtes très réceptif à l'histoire d'un parent qui a perdu son enfant. Bon, alors s'il l'a retrouvé avec un rein en moins, c'est également quelque chose que vous allez retenir. Ça circule toujours.
Alors, moi, ce que je voudrais qu'on comprenne bien...
Donc, c'est la forme moderne.
C'est la forme moderne. Je voudrais qu'on comprenne bien. Ces histoires de femmes enlevées dans les cabines d'essayage, est-ce qu'il y a eu des preuves? Vous m'expliquez le mécanisme. Je voudrais savoir, il y a eu des preuves? Vous parlez, après, on les enlève, on enlève leur rein. Il y a eu des preuves ou c'est vraiment que de la parole, une parole de rumeur, de ragot?
À Orléans, il n'y a eu aucun enlèvement officiel, c'est-à-dire jamais les autorités officielles n'ont reconnu aucun enlèvement. Ce qui ne veut pas dire que la parole officielle soit garante de la vérité.
Ça, c'est ce que
les
gens vous disent, vous comprenez? Si on leur dit, mais il y a même eu des démentis, forcément ils sont payés.
Voilà.
Alors, il y a eu, dans le livre de Morin et Payard, on retrouve un deuxième épisode qui a eu lieu 3 ou 4 mois plus tard à Amiens. Et là, il y avait bien eu une femme qui avait disparu. En fait, elle avait été tuée par son petit ami, enterrée dans la cave, et on a retrouvé ça 2 ans plus tard. Vous voyez, donc il y avait eu une vraie disparition de personnes qui avait été à l'origine. Maintenant, les histoires de disparition ont reconnu, une bouffée pour remonter après l'affaire du trou. L'affaire du trou, c'était des vraies disparitions, dont la solution s'est révélée tragique.
Absolument.
Donc ça a donné une crédibilité considérable aux idées qu'il y avait des gens qui cherchaient à enlever des enfants pour en faire des esclaves sexuels. Et cette histoire n'est pas terminée. Si vous regardez sur l'Internet, il y a énormément de sites extrêmement violents qui, transforme le personnage du criminel pédophile en un personnage tout puissant, lié à des réseaux où il y a absolument la terre entière, du pape à Bush, en passant par notre Premier ministre. Pourquoi pas, vous voyez, mais sans voir que si c'est un réseau si général, ça devient complètement invraisemblable.
Alors, il y a une question qui est légitime de se poser, je l'ai posée à Pascal, et je pense que vous n'aurez pas de réponse, malheureusement, à me donner, ou peut-être pas celle qu'on attend. Bien sûr qu'on ne connaît pas, on ne peut pas identifier l'auteur premier d'une rumeur, mais forcément, il y a bien un intérêt. Qu'est-ce qu'elle peut rapporter à son auteur, cette rumeur, Pascal ?
Je répondrai. Mais je répondrai en divisant le problème en deux. En une intention première, qui serait l'auteur hypothétique auquel tout le monde rêve, et l'intention seconde, qui est l'intention de tous ceux qui vont répéter la rumeur, la relayer. Et il me semble que il n'y a aucune obligation à une continuité ou à une identité des deux intentions. Ce n'est pas parce que l'intention première de l'auteur, donc hypothétique premier là, est une intention par exemple de canular, que tous les autres relais de la rumeur vont avoir la même intention lorsqu'ils relayent la même information ou la même rumeur. Je vais prendre l'exemple des blagues, les blagues sexistes, les blagues sur les blondes par exemple. Quand c'est dit par un homme, ce n'est pas la même chose que quand c'est dit par une femme. C'est pourtant la même blague, mais il y en a dans un cas une qui me fait rire, l'autre qui quand c'est un homme qui me raconte une blague sexiste, ça me fait pas rire. Quand c'est une femme, ça me fait rire. Parce que il y a un changement d'intention précisément. Une femme qui va raconter une blague sur les blondes a une intention qui n'est pas la même que l'intention de l'homme. Et c'est la même chose donc pour les rumeurs. Il y a sûrement des gens qui vont démarrer une rumeur, je sais pas moi, qui vont lancer un bobard, un canular, ou au contraire une parole malveillante, une diffamation, une injure, ce que l'on veut. Mais la rumeur, en tant que spécialistes, en tant que, justement, au bout de la chaîne, on définit la rumeur non pas par l'intention première, mais par le fait qu'il y a eu tout d'un coup des milliers de personnes qui ont repris cette information et qui ont eu des intentions secondes et qui l'ont reprise, donc pour des raisons, alors là, qui sont difficiles à comprendre, mais qui sont intéressantes parce qu'elles ne sont pas les mêmes que l'intention première. Donc il ne faut pas chercher à qui profite le crime, parce que ce n'est pas une chaîne linéaire de sujets, comme le prétendait justement Stern en 1902. Ce n'est pas la même intention qui lie tous les éléments de la chaîne de sujets. C'est un initiateur d'une histoire quelconque, mais des histoires comme ça, il en démarre des milliers par jour. Et parmi ces milliers-là, il y en a quelques-unes qui tout d'un coup donnent lieu à des commentaires, donnent lieu à des reprises, à des relais, qui sont modifiés ou au contraire pas modifiés du tout, et qui font véritablement les rumeurs. Mais enfin, pour terminer mon raisonnement, c'est malgré tout cela, il y a un domaine qu'il ne faut absolument pas mépriser ou rejeter du premier coup, parce qu'il donne une intention commune à tout le monde, c'est le domaine des médias. La rumeur d'Orléans, Véronique Campion-Vincent le notait avec pertinence, a été lancée aussi par les médias, par un magazine tout à fait éphémère noir et blanc, mais par aussi un livre de poche et par des reprises ensuite. Quand vous vous interrogez, mais comment se fait-il qu'on parle encore de la rumeur d'Orléans 20 ans après, enfin 30 ans après? Mais c'est aussi parce que Edgar Morin a publié un bouquin qui est en poche, qui est vendu à milliers d'exemplaires et qui fait école, enfin qui établit la véracité non pas des enlèvements, mais du cas. Hein, et ça s'appelle la rumeur d'Orléans, ça s'appelle pas l'affaire d'Orléans, l'affaire d'enlèvement d'Orléans,
ben, c'est la rumeur,
donc ça lui donne une existence. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pas parce que c'est une histoire particulièrement fantasmatique ou particulièrement marquante. Et les histoires de disparition d'enfants dans les parcs d'attractions seraient beaucoup plus modernes et beaucoup plus frappantes.
Oui, parce qu'il n'y a pas eu de nouveau, enfin, en dehors de l'affaire d'Amiens, il n'y a pas eu de grand épisode affirmant des disparitions de personnes et de jeunes filles pour la prostitution. Ça c'est mort en même temps que l'histoire maximum est arrivée. Parce qu'avant, pendant 10 ans, il y avait eu des choses. Maintenant, quelles sont les origines? On peut se dire, mais pourquoi? Parce que vers 1900, il y a eu tout un mouvement lié à l'internationalisation de la prostitution. La prostitution, alors, fonctionnait exactement à l'inverse de ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire, c'était des Européennes qui étaient envoyées dans des avant-postes de l'implantation européenne, qui était Buenos Aires, le Cap, et qui allait pour répondre aux besoins des Européens nouvellement installés, qui étaient envoyés là, souvent bon, sur une base de tromperie, etc. Il y a eu des mouvements là contre, et il y a eu donc plusieurs congrès pour l'abolition de la prostitution, et liés à ces congrès sont apparus immédiatement des épisodes de panique dans diverses capitales, Londres, New York, Vienne, et vous voyez, en même temps, tout de suite, la police a dit « mais ces paniques ne reposent sur rien ». Et il y avait déjà des épisodes, des traits, qui marquent nos paniques modernes, c'est-à-dire des piqûres au hasard, ce qu'on retrouve beaucoup dans les paniques liées au sida, où on invente un personnage de personne qui a été contaminée, qui veut contaminer à son tour.
Ce que vous êtes en train de m'expliquer, c'est que finalement, la rumeur, c'est un fabuleux moyen de manipulation.
Moi, non, pas manipulation. Ça, je ne pense pas que ces gens qui lançaient, par exemple, la lutte contre la prostitution soient ceux qui aient répondu. Mais le sujet était dans l'air. Et bon, la disparition, c'est vieux comme le monde, c'est malheureusement un fait. Mm-hmm. Et c'est aussi une inquiétude. Et si vous voulez, on a beaucoup lié ça, par exemple, à l'arrivée d'un nouveau salariat féminin qui arrivaient dans les grandes villes, et ça c'était relativement nouveau, les jeunes femmes qui travaillaient dans le téléphone, dans ces bureaux, qui avaient des existences un peu solitaires, et qui avaient peur, coupées de leurs repères, de leur famille habituelle, etc. Mmh. On analyse ça, il y a toujours une analyse à faire qui l'explique, mais c'est apparu de façon concomitante, c'est-à-dire que l'inquiétude se fixe sur des sujets qui sont discutés dans l'air.